Autre radio, autre culture, bonjour. Audio People et autres radios, autres cultures vous présentent les deuxièmes rencontres de la création sonore qui se sont déroulées au SAE Institute de Paris, les 26 et 27 mai 2010. Bonne écoute.
Merci de votre présence pour cette première conférence table ronde des rencontres de la création sonore. Donc c'est la deuxième édition cette année. On avait l'an dernier parlé de, comment ça s'appelle, Séraphine. C'était Philippe Vandendrich qui était venu, qui était l'ingénieur du son, qui avait pas mal suivi le projet. Ça avait été extrêmement intéressant, on avait découvert plein de choses. Donc Gisèle Clark, qui était là il y a deux minutes, a décidé de refaire une table ronde sur le making-of du son d'un film. Et elle a choisi Gainsbourg, une vie héroïque. Alors il y a un point commun, en tirant un peu par les cheveux, il y a un point commun avec le Séraphine de l'an dernier, c'est Yolande Moreau, qui fait une apparition très remarquable, je trouve, dans le film, dans le rôle de Fréhel, quand Gainsbourg lui-même est tout petit. Alors l'an dernier, on n'avait que Philippe Vandendrich, c'est-à-dire il avait pas mal fait de choses sur le film. Là j'ai de la chance, parce que j'ai quand même une bonne partie de l'équipe. Nous avons donc, on va faire dans l'ordre chronologique, David Ritt, qui était Perchman, qui a géré tout ce qui est micro, qui a fait aussi la post-synchro, tu me disais. Tu as tenu la perche sur la post-synchro. On aurait pu avoir Daniel Sobrino, qui était le chef-op, mais bon, il travaille, il est, je crois, en Corse, sur un tournage, donc on le plaint beaucoup, voilà. Nous avons par contre, alors là c'est rare, les deux mixeurs, co-mixeurs, appelez ça comme vous voulez, ils se mettent toujours à deux, ils expliqueront pourquoi, Cyril Holtz à ma droite et Philippe Amoureux à ma gauche, et nous avons entre deux, je parlais d'ordre chronologique mais je ne l'ai pas respecté, Jean Goudier, donc, qui a monté tous les sons pour le film. On aurait pu avoir, pareil, Jean-Baptiste Brune, qui est l'ingénieur du son musique, qui a pas mal travaillé sur le film, d'ailleurs je l'ai eu au téléphone et j'aurais pas cru qu'il y avait eu plusieurs mois de séances de studio pour ce film. Chacun d'entre vous, on sait un petit peu là-dessus. Pas parler à sa place, mais quand même récupérer quelques éléments là-dessus. Mais bon, c'est pareil, lui, il est en séance. Au studio de la scène, m'a-t-il dit. Bon, on va commencer dans l'ordre chronologique, en définitive. David, comment ça s'est passé, la prise de son sur ce film? Parce qu'on rappelle que c'est un premier film de Johann Sfar, donc. Il avait déjà l'habitude, est-ce qu'il avait une sensibilité particulière au son? Il t'a demandé, il t'a laissé faire des choses? Il avait des optiques particulières? Il voulait ci, il voulait ça?
La posture de Johann pour le film, c'était de toujours faire croire et affirmer à tout le monde que c'était un débutant dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il disait toujours, voilà, moi je fais de la BD, je connais ça bien, le cinéma je connais pas trop, mais je sais ce que je veux, ce que j'ai envie de voir et d'entendre. Donc du coup, bah voilà, c'était la posture, c'était ça, et ça ne l'empêchait pas, que ce soit pour le son ou pour tout le reste, la direction d'acteur, l'image, d'avoir des demandes très précises. Et pour le son notamment, il y en avait. Effectivement, le boulot a commencé vraiment longtemps avant le tournage, puisque le tournage a commencé en janvier 2009, et que le boulot d'enregistrement a commencé au mois de novembre, je dirais. Donc voilà, ça, comme ils ont décidé, à une exception près, de tout réenregistrer les chansons, que ce soit tout le temps les voix des comédiens qui jouent dans le film, qui chantent, évidemment, ça a demandé un gros boulot d'abord pour eux d'apprentissage des chants, parce que les comédiens ne sont pas tous forcément chanteurs, en tout cas à ce niveau-là et dans ce style-là. Et puis ensuite d'enregistrement, parce qu'évidemment, voilà, il y a pas mal de musique dans ce film, donc il y a eu beaucoup de choses à enregistrer.
Voilà donc une partie des mois de séance dont parlait
voilà, Jean-Baptiste. Ouais, donc c'est dommage qu'il soit pas là, JB, parce qu'il a vraiment eu un rôle primordial là-dessus, parce que dans le film il y a plusieurs époques, et il y a, en tout cas pour les parties chantées, parce qu'après il y a bien sûr eu d'autres musiques aussi, mais pour les parties chantées, voilà, il a vraiment eu un rôle super important, parce que c'est le but de cette bande-son, c'était de comprendre que les gens qui jouent dans le film sont aussi ceux qui chantent et que ça ne choque pas que les chansons de Gainsbourg soient réinterprétées. Que tout le monde ne se dise pas, ah, c'est vraiment beaucoup moins bien que les originaux et ça pêche. Quoi. De même que le but, c'était aussi de faire oublier que Eric, le comédien, était grimé en Gainsbourg et que voilà, il interprète le rôle. Quoi. Il y a des avis différents et divergents sur la réussite de cette chose-là, mais en tout cas, il y a vraiment eu un travail pour essayer de le faire au mieux.
Et il y a une préparation spéciale pour toi avant le tournage, avant janvier, donc ou...
Oui, parce que...
Discussion avec le metteur en scène ou...
Alors, ça, c'est plutôt la partie de Daniel, parce que moi, je suis, je suis très content d'être là, mais je suis tout là parce que il fallait c'était bien qu'il y ait quelqu'un du son direct et que Daniel pouvait pas se libérer. Donc voilà, c'est beaucoup lui qui a préparé, mais un peu moi aussi, parce qu'il y avait des dispositifs de son un peu particuliers pour le tournage, justement pour des séquences où les comédiens jouent et parlent dans la même scène. Je pense que tu nous montreras ça, Jean, comme la séquence de Bonnie and Clyde, où il compose Bonnie and Clyde au piano. Là, voilà, c'était un peu particulier. Il y a quelques séquences dans le film où il chante en direct. Donc pour ça, il fallait qu'ils essayent un peu de matériel, des oreillettes qui ne se voient pas pour pouvoir entendre la musique, parce que notamment Eric n'est pas du tout musicien. Donc voilà, il fallait faire des dispositifs un peu particuliers, dont on parlera peut-être quand on les verra. Mm-hmm. Mais du coup, ça a demandé pas mal de boulot en amont, de préparation, pour que voilà, tout le monde soit conscient de comment ça allait se passer au tournage et tout le monde soit déjà un peu préparé à la façon dont ça allait se passer.
Alors Johan Sfar, il y a toujours insisté, quand on l'interviewait sur le film, que c'était un conte. Donc il y a vraiment deux niveaux. Il y a un niveau un peu onirique, un niveau un peu élevé. C'est pas la réalité, quoi, en fait. Déjà, toi, à ce niveau-là, ça a changé ta manière d'approcher la prise ?
Ouais, alors ça a changé la manière d'approcher, surtout parce que bah, si vous avez vu le film, vous avez vu qu'il y a une créature qui occupe une trentaine de séquences dans le film, qui est un espèce de double de Gainsbourg, qui est un acteur avec une tête de marionnette et avec des mouvements d'yeux, des mouvements de bouche, des mouvements de lèvres et de sourcils. Donc tout ça, bah, pour nous, ça introduit surtout pas mal de galères parce que bah, tout ça faisait un bruit pas possible. Donc au tournage, on s'est surtout battu contre ça. Alors, de toute façon, l'acteur qui jouait la gueule, donc qui était sous le masque, était un acteur américain spécialisé pour porter des masques comme ça pendant des heures et arriver super tôt et toujours disponible. Donc lui, il avait appris le texte en phonétique, mais on savait très bien dès le départ que de toute façon, lui serait doublé. D'ailleurs, il a été doublé par Eric au final. Mais c'était surtout que ses moteurs et tout son dispositif faisaient aussi du bruit quand les autres parlaient. Donc voilà, ça a été beaucoup de lutte contre ça, de lutte. Il ne s'agissait pas d'empêcher ce dispositif-là, mais de faire en sorte qu'on puisse enregistrer correctement les voix des autres comédiens. Donc cette partie onirique-là était pour nous plutôt une galère. Après, pour ce qui est, y a eu aussi des choses intéressantes dans les demandes, bien sûr, sur la partie compte, mais je pense que ça, c'est plutôt au niveau de la post-production que ça s'est beaucoup joué.
Justement, Jean, à ce niveau-là.
Oui, bah, pour illustrer peut-être ce que tu disais, l'alternance de partie chantée et partie parlée, on peut peut-être regarder au bout de séquence.
Oui, je vais peut-être juste parler du dispositif avant. Ouais. Donc là, vous allez voir Gainsbourg qui compose avec Bardot le Bonnie and Clyde. Et là, ils ont chacun une oreillette. Il y a un pianiste qui est derrière la feuille, qui a un écran en retour vidéo, et qui joue en direct comme si c'était Eric qui jouait. Donc ils entendent dans l'oreillette le piano qui est joué en direct, qui a été refait après, mais qui est joué en direct.
Donc il n'y a pas de playback du tout sur la scène ?
Pas sur scène, pas sur cette scène-là, non. Enfin, c'est un playback en direct, quoi. Il joue,
oui. Voilà. Oui, question quand vous voulez dans la salle, les questions, il n'y a pas.
Les micros utilisés, là, pour...
Alors, là, y a un micro HF sur elle, plus la perche, et sur lui aussi un micro HF et un micro planqué devant le piano. Enfin, pour les parties, on ne voit pas le clavier. Enfin, après, forcément, c'est des compromis entre les micros de tournage qui sont censés quand même éliminer, enfin, plus atténuer les problèmes de bruit environnant, bruit caméra, choses comme ça, et des micros qu'on utilise dans le studio. Là, ça, on n'est pas allé jusque-là, quand même. On n'a pas utilisé des micros de... studio musique, comme il y a du texte aussi.
Mais ce qui est intéressant, c'est que selon les séquences, là, c'était effectivement que du son pris en direct, mais selon les séquences, on a parfois repris les voix enregistrées en studio. Parfois même, c'est un mix des deux. Parfois avec certains micros, parfois avec d'autres, et parfois un mélange entre des prises faites avec des micros type U87 et parfois les shops utilisés au tournage. Donc on devait jongler entre les deux mondes, à la fois entre la prise de son du direct, donc dans une certaine acoustique sur le plateau, et la prise de son en studio.
Et le raccord entre un U87 et des shops comme ça, ça se gère ?
Ouais, c'est pas toujours facile.
Après, l'avantage quand c'est du son à l'image, c'est que ça fait quand même passer pas mal de choses.
Ouais, ouais.
Le fait d'avoir une image, ça aide.
Alors sur une séquence comme ça, Jean, qu'est-ce que tu as rajouté ? Il n'y a pas grand-chose sur
pas
ça.
Non, franchement, y a rien qui se... non, d'ailleurs, il n'y aura non plus, mais ça, particulièrement, juste un fond d'air, et puis au lit, quoi, ça suffit, largement. Ouais. Non, mais en ce qui concerne la gueule, enfin, ce qu'on appelle la gueule, la créature double de Gainsbourg, ce qui est amusant, à la fois, et un peu triste aussi, c'est que tous les bruits que vous avez soigneusement évités, j'en ai rajouté, évidemment, comme d'habitude, et aussi à la demande de Johan, évidemment, qui était assez client de ça, bizarrement, alors que, logiquement, il n'y a pas de logique dans ce film, puisque c'est une part onirique assez importante, mais il ne devrait pas faire de bruit, puisqu'on ne veut pas faire passer l'idée que c'est une marionnette.
Mais coup, ça la réancre
quand il n'y en a pas, donc, ça, voilà, donc c'est bizarre, il est censé être humanoïde, donc ne pas avoir de mécanisme. Et pourtant, Johan était demandeur, peut-être parce qu'il était habitué de cette musique qu'il avait avec ce personnage, de retrouver un peu cette sensation-là. Du coup, j'ai recréé d'autres sons par rapport au mouvement des doigts, au mouvement des yeux, c'est moins sensible, évidemment. Maîtrisable, du coup. forcément, puisque c'était finement dosé par nos amis.
Tu l'avais rencontré avant le tournage, j'imagine, Johann Sfar.
Oui,
il t'avait donné déjà à l'époque, il avait des. Parce que c'est un film qui couvre combien, 30 ans, 40 ans, même plus, 50 ans, pratiquement toute la vie de Gainsbourg. Il y a plein de paysages sonores différents, il avait des idées en tête.
Le plus intéressant, repères, c'est pas tellement la constitution historique. Enfin, en plus, c'est pas un film d'antiquaire, c'est vraiment la chance de travailler sur un film avec une part onirique importante, une part de décalage qui n'est pas une biographie ordinaire. Quoi. C'est pour ça que pour le son, ça pouvait être intéressant quoi, de travailler dessus. Surtout avec Johann, qui est effectivement à la fois très ouvert et très frileux. Donc c'est une alternance de coups de cœur et de coups sur la tête, parce qu'il refuse ce qu'on propose. Quoi. Donc c'est assez déconcertant.
Il venait souvent te voir en salle de montage ?
Il est venu souvent, oui. Ouais.
Et avec à chaque fois un apport, une critique ?
Bien sûr, avec des demandes précises, qui changeaient parfois dans la minute. C'est-à-dire que dans une phrase, il pouvait à la fois dire tout et son contraire. Parce que c'est assez difficile à suivre, surtout dans le domaine du son, qui est un domaine extrêmement abstrait, évidemment. Mm-hmm. Si on peut écouter peut-être la gueule qui apparaît à ce moment-là, histoire de remuer le couteau dans...
Je suis ta gueule.
Si on veut écouter ce qui a été rajouté sur les phalanges et autres, avant les mix, bien entendu, c'est beaucoup plus brutal.
Ça aurait pu être du bruitage, ça, mais en fait, c'est des sons que tu as retravaillés et recalés vraiment finalement.
C'est l'éternel débat entre la frontière qui détermine qu'est-ce qui doit être fait par le bruiteur, etc. D'ailleurs, du moment que ça amuse, autant le faire soi-même, ou si ça amuse aussi le bruiteur, pourquoi ne pas...
Et après, c'est Philippe qui fait le tri, pardon, ou Cyril.
Non, c'est toi.
Il fait le trou, oui, c'est ça. Ça, non, ça, non. Non, mais évidemment, il faut que ce soit finement mixé. C'est pas question d'amener ça à ce niveau-là, évidemment. Mais c'est amusant à faire. C'est un travail très long, parce que c'est chaque doigt...
Combien tu as passé de temps, d'ailleurs, sur le montage son du film ?
4 ou 5 mois, je crois. Je sais plus.
D'accord. Et le tournage, lui, avait déjà pris pas mal de temps ?
Oui, 14 semaines.
14 semaines. Et le mixage ?
7 semaines.
D'accord.
Et ça, c'est vraiment les sons du plateau ?
Pas du tout.
Non, ça, c'est Jean qui a...
Non, c'est justement, c'est ce que je soulignais tout à l'heure, c'est qu'ils se sont évertués à éviter les bruits mécaniques, etc., qui n'étaient pas du tout comme ça. Les bruits de moteur, de servomoteur et autres. Et quand ils ont eu réussi, moi, je suis arrivé et j'ai foutu des saloperies dessus afin de d'habiller quand même les mouvements. À la mort aussi de Johann, hein, ça manquait un peu de ne pas avoir quelque chose pour signifier que c'est une créature quand même extraordinaire et non pas forcément un humanoïde normal. Avec une tête pareille, on n'avait pas de doute. Bon.
En fait, à partir du moment où la créature intervient, il n'y a quasiment plus de son direct puisque la voix est refaite. Tous les bruits de la créature, c'est Jean. Donc il n'y a quasiment plus rien du plateau.
Même la voix de Gainsbourg lui-même enfin.
Si, quand on repasse sur lui,
tu
repasses en direct.
D'accord. Ouais. Il y avait quoi d'autre comme élément sur cette séquence-là en montage son, à part les articulations ?
Un petit vent, sous la porte, histoire d'être un peu lugubre, et puis comme ça, mais qu'on entend à peine. C'est ça, mais c'est ce que je préfère d'ailleurs dans un montage son, c'est qu'on ne l'entende pas. C'est-à-dire que, non, c'est vrai, c'est-à-dire que si on l'entend, ou alors ça a des effets très évidents, ou bien ça fait un peu démonstration, et je ne suis pas du tout partisan de ça. En revanche, si on peut imprimer un sentiment de façon tout à fait cachée par des sons qui sont sous la scène, bien entendu, moi ça m'intéresse.
Ouais.
Ce qui m'intéresse, c'est quand on enlève les sons, qu'on se dise, tiens, il manque quelque chose d'un coup.
Voilà. On les entend pas pour eux.
On les entend pas pour eux, mais ça peut participer à la séquence ou à l'humeur de la séquence.
Et tout ça vient de ta sonothèque perso ?
Ah oui, c'est du frais en fait.
C'est pas du surgelé.
C'est pas du surgelé.
Tu as une autre séquence sous la main tant qu'on.
Bah j'en ai.
T'en as plein ?
Quelques-unes, oui.
Bah, celle du début par exemple là où ça.
À la patate là.
Puis qu'on est dans les humanoïdes et les créatures un peu ésotériques.
La patate, mais ça c'était un cauchemar.
Et quelle est la différence alors entre la patate et la gueule ?
C'est une bonne question.
On aurait dû un petit
peu. Non, mais le cauchemar, l'équivoque vient du fait qu'on ne sait pas exactement. Enfin, en tout cas, qu'il soit un peu bas de plafond. J'ai pas tout de suite, j'ai pas compris immédiatement pourquoi le gamin devait avoir peur de la créature, alors qu'il vient de croiser la milice, dont il a peur à juste titre, bien entendu. Et tout d'un coup, cette créature qu'il poursuit, qui a quand même l'air bonasse, qui a l'air plutôt sympathique, ronde. Il doit en avoir peur, ce qui n'est pas évident du tout, parce qu'au tournage, il a manqué de moyens, bien entendu, aussi, pour qu'on voit la créature descendre de l'affiche, parce que l'idée, c'était ça, c'est que l'affiche, la caricature du Justus, qui était affiché sur le mur devait descendre, s'animer et devenir cette patate-là.
D'accord.
Et poursuivre le gamin. C'était assez confus. Donc, ça a été de longs essais et erreurs, d'ailleurs, pour le son, pour essayer de signifier quelque chose.
Donc, tu as souffert sur cette séquence-là.
Pas souffert, non.
Tu as essayé plein de choses.
Mais c'est très long à faire, parce que c'est beaucoup plus difficile que mettre un son de bagnole. Et puis, c'est sûr, parce qu'il y a un sens à trouver dans le son, autre que la musique, bien entendu, puisque la musique peut être beaucoup plus expressive que le son. Mais, il fallait signifier que la créature descendait de l'affiche, que ça devait être quelque chose d'assez menaçant, et que pourquoi est-ce que le gamin le tue ? Bon, c'est très symbolique tout ça, bien entendu, mais il faut demander à Johannes Farr aussi l'exactitude du message. Bon, si j'ai bien compris, Gainsbourg refusait quand il était jeune l'idée d'être juif, ça ne le concernait pas. Donc c'est pour ça qu'il a une certaine crainte de cette caricature-là. Mm-hmm. Mais c'est bizarrement foutu, parce qu'encore une fois, il vient de croiser la milice. J'ai donc marié les deux sons, en fait. J'ai eu cette idée à la fin, après des mois d'efforts. Tout d'un coup, on se dit, tiens, bon sang, mais c'est bien sûr, si on mariait les deux. Donc j'ai marié les sons de la milice qui vient de passer avec la créature qu'il poursuit de façon un peu clownesque, parce qu'il a quatre pieds, donc ça n'a rien à voir. Donc, mais c'est à moitié réussi, à moitié raté, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait peur, je ne suis pas sûr que ce soit amusant, et je ne suis pas sûr qu'on comprenne. Mais l'essentiel, c'était que Johan admette ce genre d'option.
Le problème étant qu'à la base, les volontés de départ n'ont pas été abouties, quoi. C'est-à-dire que cette créature qui devait faire peur, elle faisait pas peur, elle faisait plutôt marrer.
Oui.
Si on regarde la séquence sans son, c'est plutôt une créature, plutôt sympathique, marrante, etc. Mais elle fait pas peur. Donc les volontés de Johan étaient un peu contradictoires avec ce qu'il y avait à l'image. Oui. Donc nous, on a dû un peu se battre contre ça.
C'est pas évident non plus, parce que t'as plein de choses concrètes et tout à fait réelles dans la séquence. Et puis d'un seul coup, elle bascule avec l'affiche qui s'anime, quoi.
Mais c'est
donc
toujours,
gérer ça au son. Bonjour.
C'est toujours plus difficile d'aller contre quelque chose qui est là plutôt que d'aller dans le même sens, parce que dans le même sens, la voie est tracée. Et puis...
Là, messieurs les mixeurs, vous avez dû souffrir un peu sur cette séquence.
Ouais, non, mais je pense que, comme on le disait tout à l'heure, on a un peu tous souffert. Ouais, il y a du monde. Il y avait des demandes difficiles auxquelles il était difficile de répondre. Il fallait qu'on comprenne ce qui n'était pas, ce qu'on n'a pas là, c'est que la créature, en fait, descend de l'affiche, mais off, c'est-à-dire c'est pas filmé, c'est pas mis en scène, donc il fallait le signifier que par le son. C'est toujours difficile d'être vraiment très explicite sur un son dont on ne voit pas l'image. Et puis, effectivement, il y avait beaucoup d'éléments, outre la musique, il y avait pas mal d'éléments au son, il y avait la milice, il y avait... Donc c'est du jonglage. Et surtout, ce qui est difficile, c'est que souvent, on fait plein de belles théories sur la façon dont on va organiser une séquence, sur ce qu'on veut lui faire dire, et que ces théories volent en éclats une fois au mixage, et qu'il faut que ça passe l'épreuve de l'empirisme, et ça ne le passe pas toujours avec succès. Donc après, il faut chercher, il faut tâtonner, et trouver ce qui fonctionne en réalité.
Tu avais la musique, Jean, quand tu as monté les sons sur ça
La musique a changé beaucoup, c'est-à-dire qu'au départ... forcément, tout le monde a tâtonné, tout le monde est allé un petit peu dans les essais et erreurs. Donc la musique, au départ, n'était pas du tout celle-là. C'est qu'à la toute fin qu'on a eu cette musique-là. Mmh. Et c'était intéressant, d'ailleurs, parce que c'était un aller-retour entre Olivier Davio, qui a composé la musique, et des maquettes de sons dont il était demandeur. Une maquette de montage son, parce que chacun
essayait de trouver. Régulièrement,
on s'est un peu sur cette séquence-là, on s'est beaucoup parlé. En tout cas, on s'est échangé des sons, ça c'est sûr. Moi, je lui ai fourni des idées que j'avais, qui n'étaient pas forcément celles qui sont restées d'ailleurs, mais qui ont permis aussi d'avancer dans les deux sens, et pour lui et pour moi, surtout pour moi d'ailleurs. Il fallait que ça aussi, que ça ait une connotation de cauchemar. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'à la fin, les pas sont supprimés au profit d'une espèce de vent injustifiable, si ce n'est par un cauchemar. Et évidemment, quand on est dans le domaine du rêve, quasiment tout est permis, donc on peut y aller, quoi.
Oui, d'ailleurs, c'est des pas qui sont beaucoup plus... sans l'image, on imagine beaucoup plus de gens qu'on ne le voit. C'est fait exprès aussi, ça.
C'est quand même quatre pieds,
D'accord.
En fait, je m'excuse.
T'as mis du phasing, en plus, où il y a des effets?
Non, ça, c'est l'écoute qui est un peu bizarre.
C'est une écoute à phasing. Ouais.
Mais sinon, un élément onirique, c'est un mélange, c'est un doux mélange dans un tas de trucs... peu curieux.
Ça, c'est l'électroacoustique, ça, en fait. C'est toi qui a...
Non, ça, c'est du...
Non, c'est la musique, ça.
Non, c'est pas la musique.
C'est toi.
Ça, c'est pas moi, c'est un didgeridoo dans lequel j'ai soufflé. J'ai samplé.
Bah, c'est toi, alors.
Par exemple, pour créer une espèce de malaise, etc.
Il y a combien de pistes de montage son sur une séquence comme ça
pas plus que pour une autre. Oui, enfin. Non, ça tourne autour de 70, quoi, à peu près.
Ah, quand même.
Mais il ne faut pas compter comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça sort par des stems.
Oui.
En 5-0 ou 5-1, ça dépend. Mm-hmm.
Là, il y a du grave.
Qui sont manipulables, bien entendu, parce que c'est des. Enfin, en principe. pardon. qui sont des sons relativement. Ou de même famille, ou indépendants, sur lesquels, évidemment, Philippe peut remettre la main et, heureusement, rajuster les niveaux.
Parce qu'en tant que mixeur, Philippe s'occupait davantage des ambiances, des effets et tout ça.
Ça, par exemple, qu'on entend assez peu en dessous, mais qui a quand même ce qui joue son rôle. Truc un peu sinistre.
Voilà le genre de son qu'on percevra pas en tant que tel, dont on percevra l'ambiance si on
l'a. Oui, enfin, c'est là, du coup, ça s'intègre un peu à la musique, finalement, oui. Ce qui est bien. Pareil sur les interventions vocales de la patate, c'était aussi très délicat. C'est-à-dire que. Peu importe, en tout cas, c'est.
Mais il souffle dans quoi ?
Si, il faut le dire.
Très délicat. Parce que.
C'est pas toi.
Dès que c'est trop précis, ça en fait quelque chose d'assez banal.
Oui. Puis on retombe dans une réalité.
On reconnaît le procédé, on se dit, bah non, quand même, ça marche pas. Donc c'est une délicate balance qui était très dure à régler. Et qui n'est pas forcément au top non plus. On en pourrait mixer ce truc-là, je trouve. Enfin, bon. Ça participe un peu à l'effet cauchemar, enfin je crois. Ah non, là c'était particulier. J'ai eu la chance d'assister à la finale de rugby il y a 2 ans et j'avais enregistré avec un double MS, Shops. J'étais sur la pelouse, donc privilégié.
Il faut vous dire que Jean sort rarement sans son enregistreur. Même en vacances, tu nous disais.
Ah bah, surtout en vacances, oui.
Surtout en vacances, au grand dam de ta famille.
Surtout,
attendez, t'as enregistré ça.
Surtout quand j'avais.
Ah bon, ça
va. Oui, bah, c'est vrai, mais c'est amusant. C'est-à-dire que ça nourrit beaucoup de films, finalement. Même des sons très exotiques, finalement. On arrive à, sans mentir, enfin sans faire d'escroquerie, à imprimer un ton parfois particulier sur des séquences parisiennes, par exemple.
C'est-à-dire, on t'aurait dit à l'époque où tu enregistrais cette ambiance que ça se retrouverait dans un film sur Gainsbourg, probablement que...
J'aurais pas
cru. Enfin non, depuis le temps que t'es dans le métier, tu
rien t'étonne. Ah non, j'aurais pas cru, mais de toute façon, je crois...
À quoi ce soit.
Combien de journées de mixage pour cette séquence ?
Ça a été long,
ça. Ça a été très
long.
Parce qu'on est revenu dessus.
Oui, j'ai mixé une fois, avant une projection. Après la projection, personne n'était convaincu par ce qui s'était passé, donc on y est revenu, etc. Donc ça a été assez long. Mais c'est les séquences, il y a des séquences comme ça par film qui posent problème, parce que c'est un problème de mise en scène de départ. C'est-à-dire, donc il fallait sauver finalement, comme disait Jean, un peu cette histoire-là. Donc on n'y arrive évidemment pas du premier coup, et voilà, donc on y est revenu assez souvent.
Est-ce qu'il y avait des lieux de tournage qui étaient intéressants au point de vue acoustique ?
Quasiment tous les lieux sur lesquels le tournage s'est passé, on a fait des IR. Et ça, c'est justement Daniel Sobrino avec David, voilà, qui on en avait parlé pas mal avant le tournage. Et ça avait 2 avantages. D'une part, de permettre de récupérer les acoustiques des lieux de tournage pour ce qui était fait en studio après, au cas où on voudrait vraiment plonger les personnages dans l'atmosphère réelle des lieux. Puis pour tous les soucis de raccord. Et puis, par ailleurs, peut-être parfois permettre des effets particuliers avec ces réverbes un peu modifiés. Ouais, ça a été un outil très utilisé, et en tout cas que Philippe et moi et pas mal de gens maintenant utilisent beaucoup. Je sais que moi, quand c'est possible, je demande systématiquement qu'elle soit faite sur le tournage, ou je vais les faire moi-même, le cas échéant, s'il n'y a pas de possibilité, parce que c'est vrai que c'est difficile sur le tournage, déjà qu'il y a beaucoup de sons seuls, d'ambiance à faire, pour l'ingénieur du son, d'avoir le temps et les moyens, et que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc quand c'est pas possible, ben, on se débrouille pour en faire, et puis voilà quoi. On essaye d'avoir les enceintes les meilleures possibles, en général. C'est pas toujours évident, parce que quand c'est l'ingénieur du son, souvent il a des petites enceintes, mais on essaye de prendre les enceintes qui sont recommandées, notamment par Audioise. Et puis on utilise les sweeps, toujours en fonction de ce qui est recommandé, c'est-à-dire que l'espace entre la fin du sweep et le bip de fin soit au minimum égal au temps de réverb de la pièce, à peu près, etc. Enfin voilà, quoi, on est assez discipliné là-dessus, c'est-à-dire qu'on essaye de faire d'abord ce qui est préconisé, et puis après de chercher, de faire plusieurs prises au cas où une ne fonctionne pas, et ça arrive. Les problèmes sont notamment, on les rencontre notamment sur les réverbes extérieurs qui sont beaucoup plus durs à faire. Ça produit souvent des artefacts un peu bizarres, c'est pas toujours très, très bien. Voilà, en tout cas sur Gainsbourg, et vraiment, je voulais les remercier parce que c'est un peu compliqué à faire sur les tournages parce qu'il y a souvent beaucoup de tensions, ça prend du temps, enfin bon, bref.
Bah, c'est compliqué d'avoir le plateau un quart d'heure pour nous tout seuls à envoyer des milliards, quoi, évidemment, ou des balayages. Quoi.
Il ne faut pas qu'il y ait un bruit de fond non plus, je crois.
Ah non, ouais, faut qu'il y ait un silence. Il faut qu'il y ait vraiment silence, hein. Donc après, c'est facile si tout le monde est conscient qu'il faut le faire. Si on se bat pour le reste de l'équipe pour le faire, c'est impossible. Donc là, ça s'est bien passé, on a toujours pu les faire de manière tout à
fait. Tu en as sur cette séquence, la convo d'ailleurs ou...
sur la gueule.
Sur ça, oui, ce qu'on vient de voir.
Non, c'est bah non, parce que non, là, c'est. Il y en a, mais c'est des réverbes extérieurs qui sont créés d'ailleurs pour la plupart avec Altiverb, mais qui ne sont pas du lieu précisément.
Parce que c'est marrant, ces réverbes de convolution avec l'application au tournage, souvent on nous en parlait il y a 10 ans et c'est seulement maintenant finalement que ça a vraiment tendance à...
Bah parce que c'est devenu facile, parce que les ordinateurs sont suffisamment puissants pour les...
Et c'est vrai, comme dit David, c'est que ce serait très difficile en tournage de les faire. Ils ont déjà beaucoup de mal sur les tournages à faire des sons seuls, à faire des choses comme ça, c'est-à-dire d'arrêter le plateau.
Ma question, c'était justement, est-ce que ça... Ce système-là ne permet pas de supprimer beaucoup de sons seuls qui n'ont plus finalement de justification.
Les sons seuls, ça a toujours une justification. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais, on a beau avoir tous les outils les plus formidables au monde qui permettent de faire des choses très bien, mais par exemple, une voix bien prise sur le tournage par l'acteur dans les conditions du tournage sera toujours supérieure, enfin souvent au niveau jeu, etc., qu'une prise refaite à l'identité en post-synchro, même avec l'acoustique du lieu, etc. Ça, il n'y a pas photo. Donc il y a quand même une hiérarchie dans ce qu'on doit faire sur un tournage. Bah, l'ambiance du lieu, on appelle ça des silences raccords. Alors il y en a qui ont de l'intérêt, il y en a qui sont juste pour des questions de raccords, si on en a besoin, mais parfois il y a des sons effectivement qu'on arrivera à trouver nulle part ailleurs, des sons un peu particuliers. Parfois ça a beaucoup moins d'intérêt, mais ça effectivement c'est vraiment à Daniel et à David
que
d'avoir...
Les ordonnances raccords, souvent on les enregistre parce qu'il y a du son. Hein. Donc c'est souvent parce qu'il y a un son constant, intéressant ou pas, qu'on a besoin de faire, que ne recréera pas une réverbe. Donc c'est complémentaire évidemment. Quoi. C'est du temps en plus, mais à la fois ça sert tellement le film, le son du film, que quand on peut le faire, ce serait vraiment dommage de s'en priver, quoi, maintenant que ça existe.
Séquence suivante.
J'ai cru comprendre que ce sujet, c'était aussi un petit peu le côté onirique. Quoi.
Oui.
Forcément, c'est des séquences dont je suis fier, c'est beaucoup dire, mais dont j'aime le son. Par exemple, la séquence où Jane Birkin photographie Gainsbourg sur son lit avec le chien à côté, etc. Mm-hmm. Bon. Et c'était intéressant à faire parce que la musique n'était pas prévue sur cette séquence-là, ce qui aurait été une facilité, bien entendu. J'ai essayé de faire un truc qui était plutôt rigolo, enfin je crois. C'est bien sûr c'est très abstrait en fait, hein, mais c'est peut exprimer une espèce de douceur comme un dimanche après-midi, une chaise crapuleuse, un peu, c'est un peu ça quoi. Et c'est difficile à faire. Enfin, c'était admis relativement rapidement par Johan, ce genre de style. Et puis, il est toujours un pas en avant et un demi-pas en arrière. Et, les cloches l'ont dérangé. C'est-à-dire qu'il y a vaguement une petite volée de cloches derrière, très loin, pour signifier rien. D'ailleurs, je ne sais pas. C'est juste c'était plutôt doux dans le paysage sonore. Et puis, de la mer. Il y a des rouleaux de vagues aussi qu'on entend à peine, qui participent à la caresse de cette séquence-là. Et la difficulté, ce n'était pas forcément Johan, c'était aussi... Parce qu'il faut dire que Johan venait souvent à leur salle de montage son pour écouter les sons avec son producteur ou son producteur exécutif. Ce qui est assez rare, ce genre de situation. C'était aussi parce que, non pas il n'avait pas confiance, mais comme c'était son premier film, que je n'avais jamais touché au cinéma avant, ils avaient sans doute, sous couvert de curiosité, envie de surveiller un petit peu ce qui se passait. Et donc il fallait convaincre 3 personnes au lieu d'une. Ce qui n'est pas forcément évident parce que chacun réagit face au son de façon extrêmement différente par rapport à, bien sûr, une culture, des habitudes, des associations d'idées entre des sons agréables, parce que associer des souvenirs agréables ou pas, enfin bref, c'est très, très, très fragile. Hein. Et donc, le producteur lui dit, mais c'est quoi, pourquoi il y a des cloches, donc,
c'est-à-dire, lui aurait préféré quelque chose d'effroyablement banal avec des cigales,
pas
peut-être ou je
non,
sais
mais
pas.
Chacun, je dis ça sans émettre de jugement quelconque, je comprends parfaitement que parfois l'idée des cloches, ça peut être sans doute bateau, pourquoi pas. parce que les cloches, pour lui, ça lui faisait penser au mariage, que c'était pas dans l'esprit de Gainsbourg, etc. Donc, ils ont commencé à intellectualiser énormément la perception du son, ce qui pour moi est très difficile parce que j'y arrive pas, et surtout parce que si on n'a pas un sentiment immédiat sur le son, c'est raté. Donc, faut pas insister, il faut effectivement changer et essayer autre chose, quoi. Mais Johan, lui, était partisan de ça. Donc, du coup, c'était une espèce de bataille molle qui a abouti à une ambiance assez douce, quoi, finalement. Oui.
Et dans laquelle, d'ailleurs, des ambiances, des présences, ces bruits-là qui sont tout à fait ancrés dans le réel, par contre, s'insèrent sans aucun souci et sans...
C'est un mélange de
présences dépasser, alors que c'était pas gagné,
par le bruiteur, bien entendu, les appareils photo que j'ai réenregistrés, etc. Donc, tout est... c'est pas le direct,
oui.
Enfin, si je me souviens bien. Un peu de direct sur elle, un petit peu souligné, surligné par des instants de bruitage et par les appareils photo. Bref, en tout cas, c'est une séquence qui me botte vraiment. C'est ce que j'espérais, quoi.
Donc celle-là, tu y es revenu aussi plusieurs fois ?
Assez peu, finalement. Assez peu.
Une fois que
les producteurs sont sortis, on a remis comme c'était. Puis voilà.
Comme d'habitude. Et au mixage, comment vous avez eu tous les deux... Johan, il venait régulièrement aussi
ou... Ouais. Il
pas toute la journée, quand même, j'imagine.
Non, parce qu'ils deviennent dingues, sinon.
Oui. Très peu sur Mazo à ce point.
Et puis c'est bien qu'il garde une espèce d'écoute objective avec un peu de recul. Et si on lui montre trop tout petit bout par tout petit bout, surtout Johan, il aura tendance, comme il intellectualise beaucoup, à se focaliser sur certains éléments et à perdre une espèce d'écoute d'ensemble. Ouais. Donc ça dépend des gens. Il y en a qui arrivent à se détacher du processus de travail, d'autres beaucoup moins. Donc ceux-là, on préfère que leur proposer quelque chose, c'est-à-dire des séquences ou carrément une bobine déjà mixée, entre guillemets, ou en tout cas avec une proposition de mixage. Et après, ils viennent et ils écoutent l'ensemble de la bobine. Ils la prennent en pleine tête, c'est-à-dire que c'est comme ça. Et là, ils peuvent réagir vraiment de manière beaucoup plus constructive.
Mais ils la réécoutent plusieurs fois, quand même, quand tu leur...
Bien sûr, mais de toute façon, on le réécoute des centaines de fois, le film. La première proposition, je préfère qu'on ait déjà un travail à peu près abouti, oui. Plutôt que de lui montrer un truc en friche.
Au 3K, toutes les automations déjà qui sont...
Oui, évidemment. On va dire que cette première écoute constitue notre proposition à nous. Mixage, c'est-à-dire comment on a ressenti la séquence en fonction de ce que Jean avait fait, et donc on propose ça, et après il
donc
dit
si
bon bah il y a ça qui va
c'est
pas.
Fini, t'as pas à revenir dessus.
C'est fini très, dans très un peu. Premier temps, c'est-à-dire que c'est fini que quand on considère séquence par séquence, mais après évidemment la vue d'ensemble du film change beaucoup l'impression qu'on a et la façon dont on reçoit les sons. Donc évidemment, c'est soumis à ce second passage, voire ce troisième.
Une question dans le fond.
Est-ce que le budget accordé au son sur ce film est plus important que sur d'autres projets sur lesquels vous avez travaillé, ou bien...
Évidemment, le budget accordé à une post-prod est en principe, s'il est bien fait, toujours proportionnel à l'ampleur de celui qui est général pour le film. Donc le budget, je pense, accordé, ça faudra en parler au producteur, parce que nous, on ne sait pas, on n'a pas idée des budgets réels, mais on juge à peu près en nombre de semaines dont chacun dispose. Et c'est vrai que là, c'est quand même...
C'était confortable.
C'est plus que confortable, quoi. C'était vraiment... c'est vraiment des bonnes conditions
de
travail.
Le budget de Gainsbourg, je ne sais pas, je dis peut-être une grosse bêtise, là, mais...
On a travaillé dans des lieux qui sont vraiment très bien.
C'était où, d'ailleurs ? SIS ou...
Non, c'était à Boulogne.
Boulogne,
ouais. Non, on a eu des très bonnes conditions de travail, on va dire. Enfin, je pense, en tout cas, pour notre part, on aurait vraiment mauvaise grâce de dire que ça ne s'est pas passé dans des bonnes conditions.
Oui,
il y en a beaucoup, inévitablement. D'une part, parce que les conditions de tournage ne facilitaient pas tout le temps la prise directe, mais on a gardé beaucoup de directs, parce que les directs ont été très travaillés par Daniel Sobrino en amont, pour enlever justement les bruits que faisait la créature quand c'était possible, etc. Donc on a une très grande proportion de direct pour un film comme ça, mais il y a eu évidemment beaucoup de post-synchro. Ne serait-ce que parce qu'il a fallu resynchroniser entièrement la créature. Donc tout ce que dit la créature, c'est refait. C'est de la post-synchro. Et puis, ponctuellement, il y a pas mal de bouts de séquences qui sont repost-synchronisés. Et après, c'est un mélange... Et évidemment, la plupart, pas tous, mais la plupart des chants, des voix chantées, c'est pas de la post-synchro, mais ça a été fait en studio, c'est pas issu du tournage tout le temps. Il y a quelques moments qui sont issus du tournage, comme Bonnie and Clyde, qu'on a vu, à un moment, il est dans un piano-bar au début, et il chante, ça aussi, c'est du direct. Voilà, mais bon, il y a quand même une proportion non négligeable de post-synchro, qui est minoritaire hein, par rapport au direct, évidemment.
Donc, tu as eu des séquences où, quand tu faisais ton prémix voix, tu as mélangé un peu de tout. Tu avais de la voix directe, de la voix enregistrée, de la voix chantée directe et de la voix chantée enregistrée.
Après, je sais que c'est une question de façon de travailler, d'envisager les choses. Moi, je sais que j'aime bien me dire que voilà, j'ai une matière qui est travaillée au mieux. Déjà sur les directs, qui sont vraiment, sur les voix, qui sont la colonne vertébrale des films. En plus, ça me permet d'avoir une première lecture du film, de commencer à penser à des choses, et surtout d'avoir un second niveau d'action sur les directs quand je les ai après, pendant le mixage du reste. Et du coup, les directs ont besoin de travail, de retravail, de re-retravail, etc. Donc, je sais que j'aime bien faire ce passage. Mais, par exemple, Philippe, lui, a commencé aussi à pré-mixer pendant cette étape une partie des bruitages. Et moi, j'ai repris aussi, j'ai commencé à pré-mixer les voix chantées aussi.
Il y en avait beaucoup des bruitages pour faire un prémix ou bien c'était pour être tranquille, pareil, être sûr que c'est...
Non,
tu le fais une fois et tu t'en occupes plus.
Il y a ça, et puis c'est toujours le même principe d'avoir un prémix parole qui se tient debout à la fin, c'est-à-dire qu'on ait quelque chose qu'on puisse écouter comme ça. Moi aussi, donc, je fais des prémix paroles quand je mixe sans Cyril, parce que c'est pas du tout la même énergie, ce travail sur les paroles et le travail sur le reste de la bande-son non plus. Le prémix parole, c'est très fastidieux en général, on a besoin de beaucoup de travail de correction, etc. Alors que dans le mix, on va aller beaucoup plus dans des choses plus longues, où on pourra réagir plus facilement sur ce qu'on entend artistiquement, disons. Donc c'est assez agréable d'avoir déjà ce prémix parole sans débarrasser pour après attaquer ce mixage dans d'autres conditions.
Donc au début des séances dans l'audit de mixage, toi tu prémixais tes paroles et toi tu prémixais tes bruits.
Bruit, ouais.
Et après vous êtes lancé dans le mixage à proprement dit.
Une fois que c'était
avec
fait
les
sur
éléments
tout le film.
De gens qui
absolument.
Étaient
mais pour faire le prémix parole, on a toujours un témoin, une espèce de maquette de l'ensemble du montage son de Jean.
Tu fais une sommation stéréo ou quelque chose comme ça?
Non, 5-1.
5-1, oui, évidemment.
Ouais.
Bah,
oui, tant qu'à faire.
Et évidemment, comme ça, on ne fait pas ça dans le vide aussi. Oui. C'est-à-dire que...
Et je pense à un truc, bon, Gainsbourg, il était horriblement difficile à capter en radio ou même en studio. Quoi. Eric est allé vraiment dans ce sens-là.
J'ai pas pu comparer les deux.
Oui, tu n'as pas connu le...
Non, Eric, on n'a eu aucun problème avec lui. C'est un comédien d'une technique... assez impressionnante, plus de son talent de comédien. Il est très très précis, très réceptif et attentif aux demandes qu'on a pu avoir par rapport à ça. Et...
Ouais, c'est un mec fantastique. Hein.
Un peu d'explication pour les allers-retours qu'il y avait entre le travail sur la musique et le travail sur le montage son, et aussi du coup des directs sur ce film-là. Donc savoir comment les allers-retours se faisaient, est-ce que vous avez beaucoup travaillé ensemble à certains moments, est-ce que le même côté musique, ils étaient demandeurs du montage son sur certaines séquences afin d'affiner, enfin voilà, comment se faisait
ça s'est très bien fait parce qu'Olivier Davio est quelqu'un de délicieux, toujours extrêmement modeste, même trop, par rapport à son talent, je trouve, et il a toujours été à l'écoute, bah, pas sur toutes les séquences, bien entendu, hein, à l'écoute de ce qui était fabriqué en dehors de son domaine. Comme moi, j'aime bien avoir des apports comme ça de sons un peu abstraits. Parfois, ça passe très mal auprès de certains musiciens, c'est vrai, qui pensent qu'on essaie de marcher sur leur plate-bande, ce qui n'est pas du tout le cas, pas du tout. C'est juste parce que ça m'amuse, c'est pas pour leur prendre des droits d'auteur, pour lequel je ne touche rien d'ailleurs. Je regrette. Enfin bon, bref. Et ils sont souvent très opposés à ça, sauf quelques exceptions, comme certains musiciens avec qui j'ai bossé sur Dogora, par exemple, qui étaient très demandeurs de sons additionnels à leur musique, et qui se nourrissaient, qui demandaient même que leur musique soit habitée par du son. Parce qu'en fait, il y a des musiciens qui comprennent que c'est une musique au service d'un film, ou d'un récit, ou d'une ambiance. Et d'autres musiciens qui ont un égo peut-être un peu décalé et qui pensent que d'abord leur musique est plus importante que le film. Ce qui n'est jamais le cas, jamais. Et donc ça s'est vraiment formidablement passé. Mais encore une fois, c'est un épiphénomène. Hein. C'est 2, 3 ou 4 séquences, pas plus, où il y avait des abstractions. Mais c'est bizarrement sur des séquences très difficiles à tous les niveaux, comme la patate, comme l'épisode du coiffeur quand il va chez le coiffeur, enfin chez la coiffeuse, qui est ravissante, mais bon, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Toutes ces séquences à problème, de signification, ont été des séquences où on s'est échangé beaucoup d'idées sonores. C'est en ça que c'est super intéressant. Moi, je regrette jamais. Enfin, je suis très content de connaître ce monsieur. Voilà.
Pour revenir sur la question du budget global, l'importance qui a été affectée au son dans ces différents aspects, est-ce que ça a été un donné au départ ou c'est quelque chose qui a été acquis au fur et à mesure avec une négociation?
Non, c'était enfin négocié dès le départ. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu d'entourloupe, ni de ma part, ni de la leur. Ça a été clairement dit que c'était un travail important au son, enfin, qu'un travail en longueur important, parce que ce n'est pas un film banal. Donc forcément, ils ont intégré l'idée, très intelligemment, je dois dire, que ce n'est pas la manipulation qui est longue, c'est la réflexion et le droit de se tromper, surtout. C'est dans un film en devenir et en gestation, avec plein de problèmes de récit, plein de problèmes d'acceptation de l'idée d'abstraction, c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps, encore une fois, que de monter, même des séquences techniquement difficiles à monter, comme des batailles de coups de feu, etc. On sait où on va pour monter les sons de coups de feu. On sait très bien que bon, il faut telle et telle composante, et puis il suffit de quasiment de suivre l'image. Ce qui n'est pas des choix, hein, du tout, c'est un travail aussi important, mais dès que ça devient abstrait et que ça dépend de la perception du réalisateur, là, ça prend du temps, évidemment.
Encore une fois, l'exigence était vraiment uniformément répartie, quoi. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien que ce soit les producteurs, et évidemment Johan, le réalisateur, et nous, on était tous conscients du fait qu'il fallait vraiment que ce film soit d'égale qualité dans tous les domaines, et notamment sur le son, où il y avait quand même pas mal d'enjeux. Ce que signalait David tout à l'heure, le fait qu'il fallait quand même que ce personnage incarne Gainsbourg, que tout le monde connaît, donc tout le monde a en tête ses morceaux, etc. Il fallait qu'on croie, non pas que c'est Gainsbourg, mais en tout cas qu'il l'incarne parfaitement, qu'on se pose pas la question. Et le fait que toutes les chansons aient été réorchestrées, etc., c'était vraiment une gageure aussi. C'est-à-dire il fallait vraiment qu'on croie à ça. Et donc, pour ça, il faut mettre les moyens, évidemment.
Quand on a une chaîne d'acteurs avec beaucoup de monde et avec des métiers différents, et quand on tend vers un but, à un moment, la parole est importante. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Alors le paradoxe, c'est que pour nommer un son, l'idéal, c'est de l'écouter. Donc on peut imaginer qu'au montage, au lieu de parler d'eux, on le fabrique, le son, on le fait écouter, et ensuite, éventuellement, la parole peut arriver. Quel est le juste équilibre entre je fais écouter des sons, et après, petit à petit, il y a une discussion avec l'ensemble des acteurs qui fabriquent ce qui sera retenu in fine, ou au contraire, on en parle d'abord et on réalise après? Comment se fait ce juste équilibre pour des gens qui constituent une équipe qui ne se connaissent pas forcément, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, et dans un système qui est aussi ouvert, notamment dans le temps?
C'est un peu difficile de répondre. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne Johan, il y a d'abord eu des vœux exprimés, de sa part, en tout cas en ce qui me concerne, des vœux, des intentions, des discussions un petit peu, mais très courtes, hein, des visions, une vision du film avec lui, avec ses desiderata, abstrait. Et puis après, bien sûr, le travail important arrive, et c'est, vous avez raison, c'est, on ne peut pas parler du son, il faut l'écouter et voir dans quel sens on va, si c'est la bonne direction ou pas la bonne direction. C'est tellement abstrait, ça peut difficilement passer par les mots, en tout cas avant les exemples, c'est sûr. C'est pour ça que ça prend du temps, et c'est pour ça que le budget était important, surtout au mixage d'ailleurs. Enfin, bon, c'est... En ce qui concerne le mixage, moi, si je peux glisser une séquence moi, qui m'esbaudit par rapport au mixage, c'est la séquence de la crise cardiaque. Où une des difficultés de ce film aussi, si je ne m'abuse, c'était de mélanger de la parole, c'est-à-dire du dialogue, sur des chansons, avec des paroles aussi. C'était pas du tout évident à ce que ça passe.
J'avais pas remarqué que tu avais accordé les sirènes de l'ambulance.
Tout est accordé chez Jean.
C'est malgré la force de la musique, on ne perd pas une syllabe, je trouve ça.
En fait, ce qui était super plaisant là, c'est d'arriver à essayer de traduire cet état de désespoir un peu... alcoolisé dans lequel il est, etc. Et bon, la musique évidemment s'y prêtait, surtout de privilégier une sensation qui faisait que tout montait sans cesse. C'est-à-dire que à la fin du fourgon, c'était déjà insupportable cet envahissement du titre Nazi Rock, et de le fait de se dire qu'il fallait encore franchir un échelon une fois qu'il est sur la scène, et que vraiment ça devait vraiment être spectaculaire, et que l'effet de cette sono soit rendu en même temps que cet aspect d'enveloppement complètement dans la musique était assez chouette à faire. Et c'est vraiment Typiquement, c'est le genre de séquence qui implique vraiment un mixage de pure sensation, et c'est assez chouette à faire. Ouais. Et tout ce qu'a fait aussi Jean dans le fourgon, les sirènes de police, tous les sons vont dans un même sens. Et c'est effectivement dans le film, moi, c'est l'une des séquences où j'ai pris vraiment le plus de plaisir à mixer.
Ça s'est vu, hein.
Ouais.
Alors tu travailles là l'évolution de la dynamique dans la scène, parce qu'on part si fort, tu peux pas être à donf tout le temps. Tu peux pas être plus à donf qu'à donf.
Non, mais justement, c'est ça qui est dur, c'est quand même un pari quoi d'arriver, parce que évidemment la demande de Johan là-dessus, c'est je veux que ce soit fort tout le temps, que ce soit très prenant. Et donc il faut arriver à concilier cette demande avec le fait d'entendre ce qu'ils disent quand il y a besoin d'entendre ce qu'ils disent, le fait qu'on ait toujours l'impression que la musique est très présente, et puis le fait que ça grimpe toujours et qu'on soit dans un état qui traduise bien l'état dans lequel il est lui. Quoi. Ouais.
Tu joues sur la compression dans ce cas-là, sur la répartition.
C'est comme toujours, c'est un peu de tout. Tous les procédés sont bons. Voilà, tout l'attirail. Alors là, justement, c'est intéressant parce que les musiques sont livrées pour le coup. On en avait beaucoup discuté avec l'ingé son qui a fait les prises de son musique et les mixages. Tout est séparé, en fait, enfin, au maximum, on va dire, ou au moins par grand groupe. C'est-à-dire qu'évidemment, la voix est toujours séparée et pas traitée. C'est-à-dire l'effet sono, par exemple, il était pas, le titre était mixé plat, en fait, comme si c'était un titre à écouter sur un CD. Et tout est séparé, la voix, les guitares, les chœurs, les percus, mais en stem, c'est-à-dire, on va dire, pré-mixé entre eux. C'est-à-dire que quand on écoute à plat, on a déjà un bon équilibre. Ouais. Et après, par contre, il faut retravailler tout ça en fonction des séquences.
Donc tu te retrouves avec des thèmes supplémentaires par rapport à un mixage habituel, quoi.
Ah bah oui. On était sur une dizaine de thèmes 5-1, parfois. Je ne sais plus exactement. Mais donc,
En plus de ce que tu gérais, toi.
Ah oui, c'est complètement indépendant du reste des sons.
Il y avait une question, je crois.
Est-ce que, Jean, vous étiez avec votre Pyramix pendant le mixage, ou bien vous avez donné... est-ce que c'était Pro Tools ou Pyramix, la machine de lecture ? Comment ça s'est passé ?
La machine de lecture était logiquement Pyramix, puisque j'ai travaillé sur Pyramix, puisque l'audio est équipé à la demande, donc c'était assez facile de rester sur Pyramix.
Jean travaillait sur Pyramix, mais les musiques, par exemple, et les paroles étaient toutes sur Pro Tools. Donc on avait en gros un Pyramix pour la lecture des sons de Jean. Un aussi, alors je ne sais pas si c'était cumulé, mais pour les bruitages, il y avait un Pro Tools pour les musiques et pour les paroles, et plus un autre Pyramix, voire deux, un moment, je ne sais plus, pour l'enregistrement. Donc ça fait un peu de machine. C'est une DFC, une AMS Neve Gemini. C'est une console vraiment spécialisée pour le film.
Et tes sons à toi, Jean, sont déjà traités, spatialisés, automatisés, égalisés, ou tu laisses...
Je ne voulais pas sortir. C'est un peu délicat, non. C'est-à-dire qu'effectivement, je les prépare, et ce n'est pas pour me défendre, mais je suis obligé de le préparer un maximum, sans pour autant prétendre l'avoir mixé, bien entendu. C'est une préparation qui est nécessaire pour présenter les sons de façon cohérente au réalisateur quand il rentre dans la salle de montage, qui est équipée en 5-1, avec une bonne écoute, un bel écran et tout. S'il n'a pas ça maintenant sous les oreilles, c'est très difficile maintenant de faire émettre à un réalisateur, comme on faisait avant, du temps du 35 mm magnétique, ou 16, d'écouter un son ou deux maximum à la fois, et de dire voilà, alors là, à ce moment-là, tu auras une autre ambiance qui fera ci, qui fera ça, que je présenterai plus tard, etc. C'est un ensemble maintenant, grâce à ces appareils formidables qu'on a à disposition, on peut présenter avec des valeurs de rapports de niveau, disons, on va dire cohérents, mais qui ne peuvent pas, évidemment, aller jusqu'au mixage dans cet état-là. C'est juste pour une présentation. Donc, oui, il y a une spatialisation qui est de toute façon virtuelle et qu'on peut toujours rectifier à l'auditorium. C'est ça, là, le grand avantage de ça, c'est rien n'est figé, ni les EQ. J'utilise très peu de plugs, en fait, ni la spatialisation. Tout est à nouveau corrigeable et modifiable à loisir au moment des mixages, bien entendu.
On a une vraie intention qui est signifiée par le montage son, c'est-à-dire que du coup, ça nous guide énormément et ça nous oriente. Et finalement, ça devient non seulement un matériau de départ, mais plus que ça, une source d'inspiration quoi, dans ce qu'on fait. C'est génial que les sons puissent être au niveau qui a été pensé par le monteur son.
Quitte à réintervenir un petit peu dessus, j'imagine, Philippe. Mais ça, c'est le mixage, c'est tout à fait normal.
Oui, c'est le mixage. Il y a quelqu'un derrière le montage son qui a une sensibilité. Il y a un état, l'auditorium, qui fait qu'on voit les choses différemment. Et il y a une réunion d'équipe à un moment donné dans l'auditorium qui fait que bah, on a des sensations différentes, et qu'on a envie de changer. On a mixé une séquence avant qui a une autre visage que ce qu'il était en montage. Du coup, la séquence après va être mixée différemment. On a le rapport à l'image qui est différent. Enfin, on a plein de choses qui fait que. Mais ce que dit Cyril, c'est vrai. C'est-à-dire que maintenant, en mixage, on s'amuse beaucoup plus avec des montages son préparés comme ça qu'on le faisait avant, où on essayait de régler des problèmes, où on essayait de. On écoute la bobine, elle est très très bien comme ça. Et puis, bah, ça nous donne des envies, des idées, des choses. Et finalement, plus c'est préparé, plus on a d'idées, plus on a d'envie.
Et on met pas moins de temps. Parce qu'on met à profit ce temps qu'on a pour faire des choses peut-être moins fastidieuses, parce qu'elles sont faites au montage son, mais qui nous permettent de nous intéresser à des choses finalement beaucoup plus créatives. Ouais, c'est ça, et beaucoup plus intéressantes à faire.
Et Johan, c'était quelqu'un, un réalisateur à plan B ou non ? C'est-à-dire tu doublais systématiquement ou tu voyais à peu près au début ou...
Plan D même.
Plan D,
largement, oui. Non,
d'accord.
Non. Oui, parce qu'il est assez changeant.
Oui, tu nous disais tout à l'heure. Mais...
Donc forcément, il faut prévoir des routes de secours. Mais les choix, quand même, à 90%, se sont faits dans la salle de montage. Quand ils concernent mon domaine, hein, se sont faits dans la salle de montage, heureusement. Sinon,
oui, c'est pas cette semaine.
Sinon, après, c'est les options de mixage qui étaient aussi délicates à décider pour lui que pour le choix des sons, bien sûr. Et puis, non, pour revenir à la préparation des sons, c'est vrai que c'est plaisant à faire pour un monteur son de faire des vraies options, de, non pas de mixage, mais de niveau sonore, etc. Mais il y a quand même deux paramètres qui manquent cruellement quand on fait ça et qui... effectivement font accepter l'idée ô combien que d'autres personnes prennent en main ce travail-là pour en faire quelque chose d'autre, même si parfois c'est douloureux pour celui qui l'a fait, parce qu'on ne reconnaît pas ses idées, etc., ou extrêmement jouissif, parce que tout d'un coup, ça prend vie, et comme tu pensais que ça prendrait vie. Mais il y a deux éléments qui manquent cruellement quand on le fait. C'est un prémix parole propre, évidemment, sur lequel s'articule tout le film, bien entendu, parce que c'est vraiment la colonne vertébrale, et puis le mixage des musiques. Nous, on a des musiques témoins, enfin, qui sont parfois en bon état, mais ça n'a rien à voir avec un travail d'auditorium, bien entendu, quelle que soit l'installation dans une salle de montage, évidemment. Donc, nous, on prépare notre domaine au goût du metteur en scène, parce qu'il valide quand même dans la salle de montage. Et sans le savoir, il valide aussi certains niveaux. On ne rentre pas dans les détails quand on est confronté à des séances de choix.
Question.
Quel moment vous prenez part au projet dans la production du film et de quelle manière ?
En montage son, vous voulez dire ?
Pour chacun, en fait, comment vous collaborez ? À quel moment vous prenez part au film ?
Là, c'était exceptionnellement très tôt dans la fabrication. On a été impliqués avec joie dans ce projet pendant même les périodes de préparation. Parce qu'il y avait évidemment des problèmes techniques du fait même du mélange de genres entre chanson, musique et son direct, bien entendu, et le montage son et le mixage. Tout le monde était bien sûr convié à tout ça. C'est très rare. Hein, ça. Et ça fait partie du bonheur de travailler pour un film comme ça.
Donc, le scénario était écrit quand même. Il n'y a pas eu de modif du scénario après discussion comme ça. Si, quand même.
Non, pas après. Non,
non, ça ne touchait pas, j'imagine.
Oula, surtout pas. Non, non, non. Le scénario a été modifié, mais pas à ma connaissance, pas en fonction du son.
Et le montage image, pendant que vous commenciez à travailler, il y a eu des changements ou
ça,
pas trop ?
Moi, j'ai commencé largement avant les mixages, Dieu merci, mais ça a beaucoup évolué pendant que je travaillais dessus. D'accord. Mais ça fait partie du jeu maintenant.
Oui, il paraît.
Mais c'est sans douleur, parce qu'avec tout ça, avec ces machines-là, c'est relativement facile. Enfin, je ne vais pas parler comme un vieux crétin, mais j'ai travaillé avec du 35 mm, et quand on faisait des transformations de montage sur 40 bandes de 35 mm, là, on sentait notre douleur.
Oui,
là, bon, en trois clics de souris, c'est pas fait, mais enfin, au moins, c'est mécaniquement fait. Après, il faut régler des problèmes. Mais...
David, je t'ai pas demandé ce que tu avais utilisé comme matériel, en fait, sur le tournage. Enregistreur,
l'enregistreur,
HF, tout ça.
C'était un DEVA 5.
Un DEVA, d'accord.
Les HF, c'était des audios limités, des 20-20 et des 20-40. Peut-être quelques Sennheiser pour des histoires de taille d'émetteur. Les micros, c'était beaucoup des Shops. Daniel travaille beaucoup avec des Shops.
Il y a eu des séquences compliquées à gérer au niveau de l'enregistrement des directs, je veux dire des rampes de micros, par exemple, ou plein de HF ou...
Il y a eu des séquences avec beaucoup de HF, mais enfin, c'est moins compliqué à gérer qu'avant, parce que sur un DEVA 5, il y a 10 pistes. Donc voilà, même si on ne livre pas un truc brut avec les 10 pistes, il y a quand même possibilité de retravailler les choses si on s'est planté au tournage, qui permet d'ouvrir plus de possibilités pour la suite. Mais après, oui, il y a eu des séquences plus difficiles que d'autres, mais l'essentiel de la difficulté, c'était de gérer la musique, qu'elle soit en playback, en direct. On avait un Pro Tools sur le tournage, les musiques nous arrivaient aussi sous forme un peu éclatée pour pouvoir mettre ce qu'on voulait à la demande
telle oreillette ou telle enceinte.
Oui, donc quand on aura le Blu-ray, là, on fait des arrêts sur image, en cherchant bien, on verra une oreillette sur...
Elles ont peut-être été gommées en post-prod numérique.
On peut faire ça aussi, maintenant.
Ah, bah,
oh là là. Gommer les oreilles de Gainsbourg, ça aurait été dommage, quand même.
Ouais, après, pour revenir à la question sur à quel moment on a été appelé en amont du projet, c'est effectivement très tôt. Je crois qu'en plus, le tournage a été un peu reculé dans les histoires de financement. Il devait démarrer 4 mois plus tôt, il n'a pu démarrer qu'en 2009. Donc du coup, effectivement, Daniel, par exemple, il a été appelé dès le printemps 2008.
On a peut-être une dernière séquence à passer. Là, il nous reste 5 minutes.
Non, surtout dans la rubrique, quand il n'y a plus de son, on est content. L'arrêt des sons peut signifier quelque chose aussi,
bien
même
sûr.
Si c'est complètement illogique. Je pense à la séquence du train électrique. Ouais, logiquement, il n'y a aucune raison que le son s'arrête. Hein. Il tire dans la tête, il tire pas dans le train électrique, par exemple. Mais évidemment, ça crée une tension. C'est pour ça que c'est amusant quand on supprime, quand on confisque des sons. Ça se fait avec tout, avec des cigales, avec des grillons. On enlève, hop, tiens, il manque un truc. Et donc, ça crée un sentiment bizarre.
Sur le DVD, Cyril, on t'a donné du temps pour revenir sur le mixage, l'adapter. Et il y a une différence entre le DVD et le Blu-ray, d'ailleurs.
Ouais, maintenant, il y en a
maintenant,
une.
Maintenant, il y en a une.
Donc, les opérations de réduction, en fait, des formats cinéma vers les formats vidéo, entre guillemets, a été une source de beaucoup d'interrogations, de mutations, de tâtonnements divers. Là, on commence à savoir, enfin, en tout cas, certains d'entre nous, à comprendre comment faire ça au mieux. Mais il y a une multiplication, du coup, des différentes versions de mixage, même si l'idée, c'est toujours de rester au plus près de ce qu'on a en cinéma. Mais évidemment, la dynamique des formats qu'on a chez soi après, soit en diffusion télé, soit en DVD Blu-ray, n'est pas du tout la même que celle dont on dispose en cinéma. Donc, il faut adapter le film.
Et donc, à l'issue du mixage du film, on t'a donné une journée pour le DVD, une journée pour le stéréo, une journée pour
le... À l'époque de Gainsbourg, on était encore dans cette optique-là. Effectivement, on a eu un ou deux jours, je crois, pour faire les différents formats. Maintenant, Philippe et moi, on cherche à avoir un peu plus de temps et surtout à pouvoir disposer des éléments pour faire des versions correctes. Maintenant, quasiment, on ressort des mixages vidéo avec 7 formats différents. Ouf. Avec 7 versions du mixage différentes. Un pour le DVD, un pour le Blu-ray, un pour la TV HD, un pour la TV SD, un pour le...
Donc, c'est pas les mêmes, d'accord.
Voilà, parce que les contraintes sont différentes et aussi parce qu'on veut que les gens, chez eux, puissent disposer de la meilleure version possible en fonction du matériel dont ils disposent. Voilà, ça prend du temps, ça fait beaucoup d'essais, beaucoup d'interrogations, de doutes, mais ça vaut vraiment la peine.
Ça devient paradoxal, parce que sur la version qui sort en salle, t'es en Dolby Digital là-dessus, j'imagine, il n'y a pas eu de DTS.
Oui, si, il y a du DTS.
Et si tu le sors en Blu-ray, si tu passes en DTS Master ou en Dolby True HD, là, t'as moins de compression, donc t'as une meilleure qualité à la limite.
C'est une compression, attention, c'est une compression de débit. Donc oui, effectivement,
mais tu gardes des mégabits et des mégabits par rapport à du DTS.
Ouais,
en théorie, on pourrait...
Mais il y a d'autres éléments qui viennent se greffer là-dessus, notamment la compression de la dynamique qui est essentielle, la couleur, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même spectre disponible chez soi et en cinéma. En cinéma, on a une courbe ISOX. Il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer et qui fait que, de toute façon, ce qui revient tout le temps, c'est que chez soi, quand on laisse une dynamique film chez soi sur un DVD ou un Blu-ray, on passe son temps à faire plus fort, moins fort, et ça incommode tout le monde. Et ça, c'est un truc qu'on a en tête depuis maintenant un petit moment et qu'on essaye vraiment de pallier à ce problème. Et aussi, il y a un autre problème, et pareil, on essaye d'être vachement vigilant là-dessus, c'est les problèmes de compréhension des dialogues. Et donc, on avance petit à petit. Alors, en tout cas, dans le cas de Gainsbourg, je pense que c'est, encore une fois, pas parfait, c'est difficile d'arriver à la perfection, mais en tout cas, au fur et à mesure, je pense qu'on est plusieurs à essayer d'étudier ça, et c'est de mieux en mieux. Et c'est de mieux en mieux pour tous les supports. Maintenant, j'impose d'être dans une salle qui est adaptée et pas dans un Audi. C'est ridicule. Ce qu'on faisait avant, c'est qu'on mettait 5-1 dans un Audi gigantesque, traité acoustiquement à la perfection, avec un niveau de bruit de fond vraiment très bas, etc. Ce qui est aberrant, puisque ça ne sera pas du tout vu et écouté comme ça. Donc maintenant, on essaye de se mettre dans des conditions plus à propos pour mixer des versions TV. On a mis en place une salle pour ça.
Aux Audis de Boulogne, ils ont...
Non. On l'a fait de notre propre chef, puisqu'on en a fait la demande plusieurs fois à des prestataires qui n'ont pas rechigné, parce que l'investissement est moindre, mais qui ont mis du temps, quoi, qui ont piétiné, qui ne l'ont pas fait. Donc on s'est dit à un moment donné, OK, on le fait nous-mêmes.
Alors du coup, tu mets quoi comme console dans ce cas-là? Parce qu'il faut quand même que tu relises tout ton...
On a les prémix séparés, donc c'est très peu de choses, en fait. Il suffit de rééquilibrer un petit peu les... Voilà, n'importe quelle interface de contrôle. Et après, c'est que des outils. D'ailleurs, c'est une optique optique finalement, et je suis étonné que personne ne l'ait jamais fait, une optique assez proche de ce qui se passe quand on fait un mastering pour un titre de musique. Mm-hmm. Quoi. Mono plus maintenant, Dieu merci. On s'assure de la compatibilité, évidemment. La pire des versions qu'on fait, parce qu'on s'intéresse pas aux avions, parce que ça c'est fait de manière spécialisée, ça vraiment, et puis ça c'est vraiment trop un tue-l'amour. La version, disons la pire pour nous en termes de dynamique, etc. et de contraintes, c'est la version stéréo TV, SD. Où là, on doit vraiment entrer dans des normes qui sont très restrictives, mais qui ne sont pas dénuées de pragmatisme. Je conçois. Il y a eu des discussions récemment avec les différents acteurs de la chaîne de production des programmes PAD, etc. On a une dynamique sensationnelle en cinéma. On a une chance énorme parce qu'on fonctionne dans des plages dynamiques qui sont énormes. Donc forcément, après, il faut les réduire pour les formats... vidéo.
Tu étais allé l'écouter en salle d'ailleurs le film quand il est sorti?
Oui, oui, bien sûr, on a fait plein de salles.
Et ça va, tu as été content de ce que tu as
entendu? Écoute,
il y en a qui s'arrachaient les cheveux.
Ouais, évidemment, mais il y a toujours des salles où tu t'arraches les cheveux.
C'est toujours les mêmes d'ailleurs, non?
Bon, le principal c'est que ça se transporte le mieux possible dans la majorité des salles. Après, on peut rien faire contre des salles qui sont soit très mal équipées, soit pas du tout réglées.
Bien sûr.
Alors pour le son, maintenant on commence à s'autoriser une dynamique un peu supérieure sur les Blu-ray par rapport au DVD. Finalement, la version DVD est assez proche de la version TV HD, on va dire. Et le Blu-ray, l'autre truc qui est génial, c'est que c'est en 24 images secondes, donc il n'y a pas l'étape d'harmonisation des sons. On a vraiment le format en termes de couleurs, etc., qui est le plus proche de celui du format cinéma.
S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir conclure. Il est l'heure, oui. 13h05.
Merci à vous, merci à mes intervenants. Ils ont été excellents. Et merci à Pierre Guinaud d'avoir mis le...
Je voudrais remercier Pierre Guinaud aussi de SCV qui a mis le Pyramix à notre disposition.
Autre radio, autre culture.